Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 18 avril 96.
Nous avions commencé à regarder comment, dans le « je suis », milieu humain. Et on voit tout de suite que tout ce que nous avons dit jusque-là sur la personne est immanent à la personne. La personne humaine est premièrement de recherche de la vérité, sa capacité d'aimer et la conquête de ce que représente cette complexité humaine, morale, éthique, par le point de vue de la prudence et les vertus annexes. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui est immanent à ma propre personne, à mon je suis. Ce qui est très particulier dans le point de vue du travail, dans le point de vue de l'activité artistique, c'est que je regarde à ce moment-là comme le rayonnement de la personne. Comme une manière d'agir, de vivre, qui permet à la personne humaine de transformer son milieu pour qu'elle puisse rayonner davantage, être plus elle-même. Alors, j'avais souligné ce point de vue que je crois important. Comment, grâce au travail, j'acquiers une autonomie plus, je ne dis pas plus profonde, mais plus étendue. C'est un des aspects très particuliers, justement, de la personne humaine, cette conquête de son milieu face aux intempéries physiques, face aux attaques des animaux et aussi des autres hommes. Et il y a une lutte qui n'est pas légitime. Et c'est pour ça que dans le « je suis », dans le point de vue de la prudence, il y aura à mesurer ce pouvoir de conquête et de transformation du milieu. Légitime qui permet à l'homme, à la personne humaine, d'être plus elle-même. Le travail existe à cause du corps. Ce travail de conquête, mais le travail intellectuel lié à la recherche de la vie. semblait parfait. La modification du travail se fait, du moins, est visible par l'outil. Et l'outil permet l'efficacité toujours plus grande du travail. Et quand cette efficacité devient monstrueuse, ce n'est plus une adaptation du milieu pour permettre à l'homme d'être plus lui-même dans sa personne, dans son amour et sa conquête de vérité. Mais quand toutes les forces de l'homme sont en vue de la conquête de ce milieu et de la transformation de ce milieu, qui fait que l'homme ne respecte plus le milieu naturel dans lequel il est. Il le transforme d'une manière purement efficace et économique. Ça, c'est le problème actuel. Cette transformation du monde, cette transformation du milieu, glorifie l'homme, peut devenir la grande tentation de la personne humaine. La première tentation, c'est l'orgueil. C'est la tentation d'une intelligence à la place de chercher la vérité, cherche l'exaltation de l'intelligence, que l'intelligence devienne mesure de toute chose, et que tout se fasse en référence avec l'homme transformant son intelligence en mesure de toutes les connaissances. Il y a l'autre tentation dans l'ordre de l'efficacité. Le plaisir de transformer le milieu dans lequel on est, non pas en vue d'aimer plus et de mieux rechercher la vérité, mais en vue tout simplement de la gloire, l'exaltation du corps de l'homme, de son imagination, de sa sensibilité affective, et poussant jusqu'au bout sa libération, oui, une conquête d'une autonomie toujours plus grande pour se libérer de tout son conditionnement. Avec la posé la question très loyalement au point de vue métaphysique. Le travail n'est pas une finalité. Le travail n'est qu'un moyen pour permettre un bien-être, pour permettre à l'homme de rayonner, s'épanouir dans ce qu'il a de plus humain. Le jour où l'efficacité du travail, grâce à un développement technique qui devient monstrueux, sont les nouveaux monstres. Vous savez, le Saint-Père, dans sa première encyclique, qu'il faut relire de temps en temps, fait le parallélisme. Et c'est assez beau, entre la conquête de l'homme par rapport au milieu dans lequel il se trouve, au point de départ, avec des animaux féroces qui étaient un danger constant pour sa vie, et ce que l'homme a réalisé comme instrument de destruction, soi-disant pour se défendre et pour dominer. Et le Saint-Père fait le parallélisme entre les deux en montrant comment la prudence de l'homme a conquis progressivement ce milieu humain qui n'est plus dangereux. Il est encore dangereux en partie dans certaines parties du monde. Mais, en majorité, l'homme a conquis ce milieu sur notre petite planète. Mais, il y a un autre milieu qu'il a fabriqué par son avoir, grâce à une technique de plus en plus perfectionnée. Grâce à une connaissance pratique, il arrive à avoir des instruments qui sont de plus en plus dangereux et qui risquent de faire que l'homme a le pouvoir de détruire l'univers, c'est-à-dire de détruire le milieu dans lequel il se trouve, d'empêcher de faire que ce milieu ne soit plus un milieu vital, de faire que ce milieu soit tellement pollué que l'homme ne puisse plus survivre. Et le Saint-Père pose la question, est-ce que la prudence humaine sera suffisamment sage pour arrêter ce progrès qui risque de finaliser l'homme et d'étouffer la finalité de l'amour et la finalité de la recherche de vérité. Et je crois que dans une recherche de la personne humaine, c'est là où on doit situer cette terrible tentation. C'est la tentation d'un orgueil qui s'incarne. Dominer pour dominer. Et c'est là où il faudrait montrer que si le travail est un instrument, que si le travail est un moyen, les instruments de travail sont les moyens des moyens. Instruments en raison de leur capacité prodigieuse, leur virtualité prodigieuse. C'est la virtualité. C'est une espèce de vie son instrument. Donc de changer complètement la finalité de l'homme. L'univers physique, l'homme le domine, mais l'homme ne domine plus l'univers qu'il a créé. Cet univers artificiel qu'il est en train de créer, et ça va très vite. Va devenir le, non plus seulement le jouet de l'homme pour quelque chose de plus agréable, mais va devenir la finalité. Et l'homme sera réduit à être l'esclave de son monde artificiel. Alors vous comprenez, cela est la mort totale de l'amour d'amitié et de la contemplation. Je crois que c'est cela le péril numéro un de la personne humaine aujourd'hui. Quand Gabriel Marcel, au plan philosophique, essaie de comparer l'avoir et l'être, il a raison. Le problème se montre aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. L'avoir est toujours artificiel. Seul l'être est substantiel. Or, j'aime une personne, je n'aime pas une œuvre artificielle. Je peux l'aimer, mais alors je l'aime d'un amour qui n'est plus le véritable amour, et qui est l'amour d'un jeu très très savant, d'un jeu où l'homme apparaît comme dominant tout. Mais c'est un jeu, parce que ce n'est plus l'être, ce n'est plus le bien. C'est une réalité artificielle. Vous voyez, il faut essayer de comprendre dans la question métaphysique du « je suis ». Le moment où le « je suis » risque de se suicider lui-même par un amour de son exaltation, l'orgueil, ce qui a toujours existé. Mais ce qui est très nouveau, c'est que l'orgueil s'incarne aujourd'hui dans des œuvres artificielles qui sont terriblement séduisantes et qui risquent d'entraîner l'homme dans une voie sans issue, c'est-à-dire sans finalité, et de conduire par le fait même au désespoir. Vous voyez, ce qui montre bien l'importance du travail humain, puisque l'homme peut faire du moyen sa fin. Il peut transformer son regard métaphysique dans un regard artificiel. Et ceci se fait progressivement. L'imagination aidant, l'homme s'en aperçoit même plus. À ce moment-là, l'habitus d'art ou l'habitus de virtuosité va remplacer la sagesse. Et on est en face alors d'un homme qui joue ou démurge, voulant créer un nouveau monde et un nouveau ciel. C'est la tentation actuelle. rejaillit jusqu'à la philosophie. Voyez, quand on veut faire une philosophie, qu'est la philosophie ? Du vécu. Très vite, la logique remplace la métaphysique. Et quand la logique remplace la métaphysique, la logique étant l'art des arts, comme dit Thomas d'Aquin, puisque c'est l'art de la pensée. Cet art de la pensée peut très bien avoir la prétention d'être sagesse. Et à ce moment-là, la sagesse ne regarde plus que ce que l'homme a réalisé. La logique, c'est l'avoir intellectuel de l'homme. Parce que la logique n'existe qu'à partir de l'universel. Et l'universel est le fruit de ma pensée. C'est un être de raison. C'est une relation de raison. Alors, ça a commencé comme cela, Occam, qui représente vraiment un grand tournant dans l'orientation philosophique pour l'homme. C'est vraiment l'art logique qui remplace la sagesse. Et cet art logique qui remplace la sagesse regarde le fruit de la connaissance humaine, non plus ce que je connais de la réalité, mais la manière dont je la connais, la manière dont je la transforme, l'universel. Puisque l'universel est un être de raison, l'universel n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité première, l'universel n'existe que dans ma pensée. Et il existe comme un être de raison, c'est-à-dire comme un être que moi-même j'ai créé. C'est mon avoir. Vous voyez, je ne possède pas la vérité, mais je possède l'universel. C'est pour ça qu'on aime tellement la logique et l'universel. Parce que ça, on le possède. Et cette logique qui a remplacé la métaphysique, aujourd'hui, on en voit le fruit dans les instruments qu'on réalise à partir de cet avoir et qui ne sont plus seulement au service de la connaissance, mais déterminent ma connaissance et quelquefois la finalisent. Et cela, on le verrait dans tous les domaines. L'ordinateur, qui est un instrument très extraordinaire, l'ordinateur peut devenir rival de la vérité. L'ordinateur se pense au plan logique. Au plan métaphysique, c'est très vite fait. Mais au plan logique, c'est une complexité remarquable. Et c'est une conquête admirable, séduisante. Je crois qu'on pourrait dire, voyez, essayons de comprendre bien, l'ordinateur est de l'ordre des instruments. Pour Aristote, le premier instrument, c'est celui qui prolonge la main. L'ordinateur, c'est celui qui prolonge la raison. la raison raisonnante, c'est-à-dire la raison logique. Et ça le prolonge. Et ça permet d'être victorieux du conditionnement du temps. On gagne un temps énorme. On n'a rien de temps. On fait certains calculs qu'on ne ferait pas autrement. On pourrait dire, vous voyez, qu'on est en présence de cette confusion entre logique, métaphysique, Occam, et là, entre le point de vue logique, mais réalisé au niveau de l'outil. Risque de faire demande d'être efficace. Quand votre travail n'est pas efficace, normalement, si vous êtes un peu intelligent, vous arrêtez. Et vous dites, cette méthode est mauvaise. Et vous essayez d'en chercher une autre. Parce que le travail demande efficacité. Et ici, le frère cuisinier travaille toute la matinée avec une méthode particulière. Et que l'heure du repas arrive et que rien n'est fait. Il dira, je cherche. Mais travailler. Parce qu'il peut chercher tout le temps. Mais rien ne se chauffe. Rien ne se fait. Le travail, par lui-même, est bon. Il permet le rayonnement de l'homme. Mais le travail peut, par son fruit, devenir le rival de l'homme. Et dans tous les domaines, vous voyez ça. Et c'est important de les dépister dans un regard métaphysique. Pas dans un regard chrétien, dans un regard métaphysique. Les dépister. Voir cette première confusion de l'avoir et de l'être avec Occam, avec Descartes, et voir que ça continue. Essayons maintenant de comprendre comment les habitus d'art me permettent de comprendre comment le travail qui, sans habitus d'art et d'artisanal, sans virtuosité, est toujours un travail dur, pénible, dans la lutte. Grâce à la conquête des habitus d'art, le travail devient source de joie. Le travail se fait avec facilité. Le travail se fait avec une plus grande efficacité. Mais une efficacité qui est toujours ordonnée à la qualité de l'œuvre. Le jour où l'efficacité supprime la qualité de l'œuvre, l'efficacité n'est plus bonne. C'est ça qui peut permettre de mesurer une efficacité bonne ou mauvaise en fonction de l'œuvre, puisque c'est l'œuvre qui finalise l'activité artistique, qui finalise le travail. Il y a là un critère pratique extrêmement important pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce qu'autrement, vous allez chercher l'efficacité pour l'efficacité. Alors, l'efficacité n'a pas de finalité. Elle est ouverte à l'infini, l'efficacité. Et parce que l'efficacité est ouverte à l'infini, la recherche des instruments, elle aussi est ouverte à l'infini. Si au contraire, vous voyez la limite de l'efficacité, parce que l'efficacité est en vue de l'œuvre, et que si l'efficacité supprime la qualité de l'œuvre, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que l'efficacité vous a séduit et que vous êtes dans quelque chose qui est mauvais, qui ne réaliser une œuvre. Et je vois tout de suite, alors, à ce moment-là, qu'il peut y avoir une rivalité entre l'habitus de prudence et l'habitus d'art. Puisque l'un et l'autre perfectionnent l'intellect pratique. Mais l'un perfectionne l'intellect pratique en vue d'une œuvre éthique, en vue d'opérations immanentes à la personne humaine. L'autre, au contraire, perfectionne l'intellect pratique, l'intelligence pratique, capable de réaliser une œuvre différente que la personne humaine, distincte de la personne humaine. Il y a là possibilité de conflit, possibilité aussi de coopération. Et dans le « je suis », on doit pouvoir saisir cette possibilité de conflit et cette possibilité de coopération. Oui, c'est capital pour la vie commune. C'est un problème constant, ça. Il ne faut pas dire « ça a été réglé au début de l'année, c'est fini ». Non, c'est un problème toujours actuel. Voyez, votre vie est finalisée par un bien et en définitive par l'ami et par la contemplation. Quand il s'agit de la personne religieuse et chrétienne, et dans la mesure où vous êtes finalisé par une œuvre qui peut être écrire un bouquin, écrire un article, c'est une œuvre. Et pour écrire un article, écrire une œuvre, il faut un minimum de logique. Quand on vous dit, vous manquez de méthode, en réalité vous manquez de logique. C'est-à-dire, vous n'ordonnez pas les différentes parties de votre travail. Et vous mettez de temps en temps des soucoupes volantes au-dessus. Et d'où ça vient? C'est au-dessus. Ça plane. Et ouais, où sont les pieds? Ah, il n'y en a pas. On les a coupés. Alors, il n'y a plus que la soucoupe volante. Il faut acquérir l'habitus logique pour savoir construire un article. Comprendre ce qui est premier et ce qui est second. Non pas seulement pour vous, mais pour le lecteur. Et comment le premier conduit au second. Et comment le troisième implique les deux premiers. Un ordre très simple, mais un ordre qui existe et qui doit exister. Donc l'habitus d'art, le dernier, le sommet, la logique. Cet habitus me permet de penser correctement, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Et ceci pour pouvoir réaliser une œuvre, un article. Quand vous écrivez à un ami, vous n'avez pas besoin de logique. Quand vous priez Dieu, vous n'avez pas besoin de logique. Mais vous avez besoin de logique dès que vous écrivez à un ami qui est un homme C'est-à-dire que l'ami n'a pas pris tout l'homme. Vous avez besoin de logique quand vous passez des examens. Parce qu'aujourd'hui, hélas, on regarde plus l'ordre logique que le contenu. Vous pouvez avoir des idées géniales, mais si elles ne sont pas habillées, on dira, on n'y comprend rien. Parce que c'est génial. Tandis que la logique se comprend tout de suite, parce qu'elle n'est pas géniale. Elle met les choses en ordre. Alors évidemment, on peut tout le temps se récupérer. C'est pas étonnant que je rate tous mes examens, parce que je suis un génie. Et que j'ai des professeurs qui sont quand même normaux. Ils ont passé des examens. Bon, quand on passe ces examens, on est normaux. Et aujourd'hui, la qualité d'un professeur se juge uniquement d'après ses examens. On en est là. Il faut bien vous dire qu'on en est là. Donc voyez bien, c'est vraiment le point de vue logique. Donc l'art des arts qui domine tout. Et je crois que quand ça domine tout, il n'y a plus de fécondité, il n'y a plus que l'efficacité. Ça, c'est le signe. Alors, la logique est quelque chose de très bon, comme tous les habitus d'art. C'est bon, ça qualifie. Alors, est-ce que ça qualifie directement le « je suis » ? C'est là le problème philosophique. Voyez un grand sculpteur. Voyez un grand peintre. Est-ce que cet habitus d'art qu'il a, qu'on ne peut pas nier quand on voit ce qu'il fait, est-ce que ça transforme son « je suis » ? Est-ce que l'habitus de logique, l'art de l'art, transforme son « je suis » dans la recherche de la vérité ? Il faut se poser la question comme ça. Et ça, c'est normal. L'étude de la personne humaine présuppose toutes les autres parties de la philosophie. C'est pour ça qu'on ne l'a fait jamais. Parce qu'on n'arrive jamais à ce terme. Mais ça présuppose toutes les autres parties. Donc, dans le « je suis », où se situe mon habitus logique ? Dans mon « je suis », où se situe mon habitus de sculpteur, de peintre, de poète ? Ne fait pas partie. l'habitus logique. Dans ma soif de vérité, ne me donnera rien de génial, mais mettra un peu d'ordre dans les tiroirs. L'habitus logique mettra un tout petit peu d'ordre dans mes différentes recherches. Et ceci sera très important dans l'ordre de la communication. Mais dans l'ordre de la communication, la logique est raide. Ce n'est pas le contenu, mais c'est la communication. Donc, ça permet à mon je suis de communiquer aux autres ce qui n'est pas indifférent. Mon je suis doit pouvoir vivre dans un milieu de vie. Je transforme ce milieu en un milieu habitable. Et ce milieu, pour être de plus en plus parfait, de plus en plus humain, va impliquer le point de vue de la culture humaine. Et pour pouvoir profiter de cette culture humaine, j'ai besoin de la communication. Communiquer avec ceux qui m'enseignent. Communiquer moi-même avec les œuvres qui ont été faites. Et ceci dans tous les domaines. Grâce au livre d'Aristote sur la métaphysique, je peux communiquer avec Aristote en métaphysique. C'est sûr. Quand vous lisez la métaphysique d'Aristote, vous pensez à Aristote, j'espère. Vous êtes poli quand même. C'est quand même lui qui l'a écrite. C'est son avoir. Et vous reniez comme un petit... comme un petit roi. En voyant les morceaux très durs. Facile, on prend. Et vous communiquez. Votre travail intellectuel permet de communiquer avec d'autres philosophes. Et ainsi de suite. Donc, voyez, ça ne touche pas la structure de mon je suis, mais ça permet le rayonnement de mon je suis. Ça permet le développement de toutes les relations avec mon milieu économique, mon milieu culturel, mon milieu de développement de mon intelligence et de mon affectivité. C'est donc très important. S'il n'y avait pas cette possibilité de communiquer, mon je suis resterait dans le désert. Alors, on sait très bien que pour tout développement profond du je suis, il faut une part de désert, une part de communication. La métaphysique réclame le désert. La logique réclame la communication et permet à la communication de se faire. Et c'est dans un climat de communication que ça se développe. Je regarde ça pour la logique, puisque c'est l'art des arts. Et prenez pour un autre art, la sculpture. Par la sculpture, l'artiste communique avec les autres. Par son œuvre. Il faut expositions où il vendra ce qu'il a fait. Communication. L'art permet de communiquer avec l'intelligence des autres hommes, permet de communiquer et de donner ce que nous avons porté de plus secret en nous. Et par l'œuvre, ce secret se manifeste. Communication. Et toutes les communications reposent sur différents habitus d'art. Et cet habitus d'art qui implique la communication va impliquer une disposition, ce n'est plus un habitus, c'est une disposition de virtuosité dans tous les domaines, qui permet à la communication de se faire facilement. Donc vous voyez, je crois qu'on pourrait mettre ceci, parce que c'est important, au point de vue philosophique, d'y réfléchir. Bon, je suis. C'est de l'ordre de l'être. Il y a l'avoir. De l'ordre de ce que mon je suis est capable de changer à l'égard de mon milieu. Mon avoir, c'est mon milieu. Et ce milieu est premièrement les œuvres. J'augmente le capital humain, le patrimoine humain par mes œuvres. Des œuvres utiles. Vous augmentez le capital humain en faisant la cuisine, parce que vous permettez aux autres de pouvoir manger. Si il y avait la grève du cuisinier pendant 8 jours, hein, ça dirait bon. On sent très bien. Donc ça permet, la virtuosité permet. À la communication de se faire facilement. C'est une espèce avec habileté. Vous avez 1, 2, 3. La virtuosité est toujours liée à un habitus d'art. Et la virtuosité est de l'ordre de la facilité. C'est l'huile qui permet que tous les rouages vont bien. Donc, voyez, on est beaucoup plus loin de l'être, puisque c'est uniquement une modalité dans le travail. Donc, mon je suis n'est pas du tout déterminé par la virtuosité. Les plus faciles.